Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On file tout de suite sur les marchés pour entamer cette deuxième heure de l'émission. C'est notre promesse, tous les jours, chaque demi-heure, de faire un point sur l'évolution des places financières. Et c'est Mickaël Jacobi qui nous attend chez Oddo BHF. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Bon, on s'ennuie un peu, non, sur ce marché?
Oui, alors je mentirais si j'étais très passionné de ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, les nouvelles se tarissent. On est aussi face à un volume qui est plutôt en bas de fourchette. On a néanmoins des petites micro-variations sur la journée. Alors on a commencé dans le vert, on a oscillé légèrement négatif et là on a atteint le parfait équilibre. Donc ça sous-tend ce que je disais, on s'ennuie un petit peu. Alors il y a quelques nouvelles, bien évidemment. En revanche, les surperformances sont clairement Saint-Gobain, Capgemini, Alstom, dans un CAC qui étale ces valeurs-là, sont autour de plus 1,5% voire 2% pour Saint-Gobain, à la suite de réitération de nos confrères sur le dossier de Saint-Gobain. On est un peu plus négatif, notamment sur les matières premières. Il y a Total Energy qui est assez clairement dans le rouge à moins 1, Air Liquide également à moins 1, à la suite d'un rebond des matières premières hier, mais c'est du trading à la petite semaine, si je puis dire. On a néanmoins aussi quelques nouvelles un peu plus fondamentales, même si on n'a pas beaucoup, sur Ipsen notamment.
Alors justement, ça veut dire qu'on est obligé de se projeter déjà sur la semaine prochaine, où il y a quelques dossiers effectivement qui retiennent votre attention?
Alors, clairement, fondamentalement, on est en attente des nouvelles de la Fed le jeudi prochain, au milieu de semaine prochaine, concernant l'augmentation des taux, si effectivement le rythme va s'adoucir ou si on continue sur la même lancée. Donc tous les yeux sont rivés sur ces annonces-là et jusqu'à avoir atteint ce niveau d'information, je pense que les marchés seront un tout petit peu sur pause. En revanche, oui, il y a quelques nouvelles, notamment Ipsen. Alors Ipsen a communiqué aujourd'hui ses résultats de phase 3 sur leurs molécules, notamment sur l'immunothérapie et la chimiothérapie de cancer du poumon. Et malheureusement, ces essais n'ont pas atteint leurs critères d'évaluation principale. C'est donc une déception sur Ipsen qui aujourd'hui performe logiquement assez clairement dans le rouge. On est à moins 3%. Notre analyste, à la suite de ces essais décevants, a rétrogradé à neutre sa recommandation. On garde un target assez élevé à 102, mais effectivement, à court moyen terme, c'est une déception sur le titre Ipsen.
Merci beaucoup pour ces observations ce matin, donc Mickaël Jacobi qui nous accompagnait depuis la salle de marché d'Oddo BHF. Le CAC, on vous le rappelle, quasi inchangé, hein. On est à 6647 points, l'eurodoll est à 1,0557. Tout de suite, l'info éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, la famille Arnaud renforce son contrôle sur LVMH. Antoine Arnaud est nommé directeur général de la holding qui contrôle le premier groupe mondial de luxe en remplacement de Sidney Toledano. Le fils de Bernard Arnaud a aussi été nommé vice-président du conseil d'administration. En juillet dernier, la holding familiale Agache a été transformée en société en commandite qui facilite la transmission au sein d'une entreprise familiale. L'économie française résiste malgré l'inflation. Le PIB devrait progresser de 0,1% au quatrième trimestre. Selon la Banque de France, portée par une hausse de l'activité dans l'industrie, les services et le bâtiment. Pour l'ensemble de l'année, l'institution confirme sa prévision de 2,6% de croissance. Pour l'année prochaine, elle sera faiblement positive. Et si une récession devait se produire, elle serait temporaire et limitée, nous dit ce matin le gouverneur de la Banque de France. Bruno Le Maire au chevet du nucléaire. Ce matin, le ministre de l'Économie visite visite la centrale de Penly avec le nouveau patron d'EDF, Luc Rémont. Emmanuel Macron veut relancer la filière avec la construction de 6 nouveaux EPR d'ici à 2040. Cette nuit, 2 réacteurs en maintenance ont redémarré, portant à 40 le nombre de réacteurs en service sur 56. En tout cas, l'appel à la sobriété énergétique semble avoir été entendu par les particuliers et les entreprises, puisque la consommation d'électricité continue de reculer. Elle a baissé de 10% le mois dernier par rapport à novembre 2021, selon EDF. Toujours à propos d'énergie, la grande distribution s'engage à prendre en compte la flambée des factures dans les négociations commerciales en cours, en particulier pour les PME. Un engagement toutefois non contraignant. Michel-Édouard Leclerc était l'invité de Good Morning Business ce matin.
On va accepter les tarifs, ça ne veut pas dire qu'on va les répercuter aux consommateurs. Le distributeur a une capacité de faire.
Ah, vous voyez, vous avez encore plein de marges.
Sur ses marges. Et d'ailleurs, entre nous, le grand industriel aussi. Nous avons décidé hier soir, à la demande d'Olivia Grégoire, ministre des PME, du commerce et de la consommation, de souscrire un engagement pour les PME, pour les petites entreprises.
Ouais. Total Energy se retire du géant gazier russe Novatek. Un désengagement qui a un coût. Le groupe annonce 3,7 milliards de dollars de dépréciation d'actifs pour le quatrième trimestre. Et puis Santander écope d'une amende de 125 millions d'euros au Royaume-Uni. La branche britannique de la banque est accusée de lacunes graves et persistantes dans ses contrôles anti-blanchiment d'argent. Sanction qui n'a pas été contestée par Santander. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collot. Toute l'info éco chaque heure, c'est votre rendez-vous sur BFM Business et nous tout de suite on ouvre Regards Croisés.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regards Croisés.
Regard croisé entre Stéphane Déo et Emmanuel Salle. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Cédric.
Stéphane pour Ostrom AM, Emmanuel pour Financière de la Cité. Bon, on s'ennuie ferme, on l'a compris, avec Michael Jacobi sur les marchés. Et pourtant, ils ont quand même assez nettement repris du terrain depuis leur point bas de l'année, qui ne sont pas si vieux, c'était en octobre. Ça veut dire qu'il faut assumer un passage en bull market ou pas, Stéphane?
Je ne sais pas ce que vous appelez en bull market. Moi, je
pense quand on reprend plus de 20% dans généralement la règle.
Oui. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur un pessimisme qui était excessif. Moi, j'ai des modèles de prime de risque qui étaient dans des niveaux qui étaient totalement extrêmes. Donc, en gros, ce qui était attendu par les marchés, en tout cas ce que nous disaient les prix fin septembre, c'est qu'on allait avoir une récession noire et que ça allait être très grave.
Ça allait être la cata.
Ce qu'on a, c'est quelque chose de médiocre. Bon, vous avez vu, la Banque de France dit 0,1, c'est pas fantastique, ça fait pas rêver 0,1. Mais 0,1, c'est pas une catastrophe, c'est juste médiocre. Et donc vous aviez des prix qui étaient beaucoup trop bas, qui se sont normalisés. Bon, là, maintenant, mes modèles me disent qu'on est quelque part au milieu, dans la zone grise, où finalement, les valorisations sont à peu près normales. Et donc, il n'y a pas de raison de monter très vite, mais il n'y a pas de raison de rebaisser non plus. Donc, je pense qu'on a enlevé l'excès de pessimisme sur le crédit qui paraissait à un moment donné 40% de probabilité de défaut. Ça veut dire que d'ici 5 ans, vous auriez eu 40% des entreprises du CAC 40, par exemple, qui auraient disparu. Bon, c'était peut-être un petit peu excessif.
C'était peut-être un petit peu trop.
Et on l'a dit à l'époque, hein, c'est pas ex post. Hein. Sur les actions, c'était peut-être un petit peu moins extrême, mais je pense qu'on était sur un scénario qui était beaucoup trop noir. Et donc, on a normalisé.
Bull market, ça vous va ou ça vous va pas, Emmanuel?
C'est peut-être un peu excessif un bull market, mais je crois que ce qui est essentiel, en fait, c'est le rôle des banques centrales. Parce que pourquoi en fait on a eu ce rebond? Tout simplement parce que vous avez une anticipation d'assouplissement monétaire des banques centrales et qui est venue finalement. Hein, on a eu des discours de Powell. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on a mercredi la Fed, jeudi la BCE. C'est rare d'avoir deux réunions aussi proches les unes des autres. On a vu que Powell s'oriente très vraisemblablement vers une hausse de 50 points de base. Donc le pivot dont on parlait il y a quelques semaines se met en place. Ça, les marchés l'ont bien intégré. Donc on n'a pas véritablement effectivement de récession aux États-Unis. On a une banque centrale qui fait son métier, c'est-à-dire finalement qui a durci les taux d'intérêt au début d'année, entraînant ce fort repli des marchés et qui aujourd'hui se dit tiens, il ne faut pas aller trop vite parce que sinon je risque de taper dans le dur, dans l'économie réelle, hein, et notamment sur le marché de l'immobilier.
Les dégâts que je souhaite infliger vont devenir plus forts que je ne le voudrais.
Absolument, on sait que les peuples sont souvent les les auteurs de leur propre malheur, mais là, les États-Unis, on doit le reconnaître, savent s'arrêter au bon moment. Donc la probabilité éventuelle, qui est très rare quand même, d'un soft landing aux États-Unis, semble se dessiner. Et en zone euro, bah, c'est un peu pareil. Hein. On tablait sur les 75 points de base. J'ai vu que Monsieur Gallo était allé voir son homologue allemand et qu'il était ressorti de cette réunion en parlant de 50 points de base. Donc la probabilité là aussi qu'en zone euro on ait 50 points de base, même si le taux directeur est très au-delà du taux naturel, ce profil et tout ça finalement se retrouve dans des valorisations qui sont plutôt bonnes. À côté de ça, vous avez vu le pétrole qui a quand même baissé, hein, on est aux alentours, je crois, 72-75 dollars. Bon, c'est un environnement qui est plutôt favorable, donc on respire.
C'est vrai que la semaine prochaine on a la Fed, on a la Banque Centrale Européenne, c'est en 24 heures. Hein. Ouais, ouais. On a l'inflation. Ben, ça va être un peu la semaine la plus importante de l'année pour les marchés.
La plus importante de l'année, je ne sais pas, mais ça va être une semaine très très chargée, d'autant plus qu'à partir de... Donc la Fed, c'est le 14, la BCE le 15. La liquidité sur les marchés n'est pas extraordinaire à ce moment-là. Et après, elle est encore pire, parce que, fin d'année, etc. Donc, moi, ce qui m'inquiète un petit peu avec la Fed et la BCE, c'est qu'elles continuent à monter les taux. Si vous regardez les conditions financières, elles s'assouplissent. Pourquoi ? Parce que les taux longs ont baissé. Le taux aux 30 ans sur les mortgages, par exemple, aux États-Unis a baissé de 0,8% sur le mois. Vous avez les spreads de crédit, donc le coût d'endettement des entreprises qui s'est resserré. Vous avez les actions, on vient d'en parler, qui ont rebondi. Donc en fait, les banques centrales vont dans un sens, elles resserrent la politique monétaire et le marché défait tout dans l'autre sens. Donc à un moment donné, je pense que les Powell, Lagarde, etc. vont quand même être un petit peu énervés. Ça me rappelle beaucoup le mois de juillet, où si vous vous souvenez, on parlait beaucoup du pivot, ça a baissé, enfin les taux ont baissé, ouais. Et Powell est revenu en disant non, on s'est pas bien compris.
Et donc on peut redouter quoi ? On peut redouter faute ?
Je serais pas étonné que les banques centrales resignalent de manière nette que les taux sont là pour rester élevés pendant longtemps. Le marché recommence à jouer avec des baisses de taux, l'idée de baisse de taux l'année prochaine. C'est pour ça que les taux longs baissent. Pour moi, c'est très prématuré. Je ne serais pas étonné qu'à la fois Powell et Lagarde réexpliquent.
Donc, ce ne serait pas dans les actes, mais plus dans les paroles.
Oui, les 50 BP, enfin, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est, enfin, ce serait très surprenant qu'ils ne fassent pas 50 BP les deux. Ils l'ont tellement signalé. C'est très, très peu probable. Mais on peut avoir des taux longs. Je trouve que les taux longs sont à des niveaux qui sont beaucoup trop bas à l'heure actuelle, des deux côtés de l'Atlantique.
Ce déséquilibre, il vous interpelle aussi,
je sais pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je pense que la question des conditions financières, elle doit être appréciée, eu égard à ce qu'on appelle le taux d'intérêt naturel. En zone euro, indéniablement, on a des conditions financières qui sont quand même très restrictives par rapport à ce que serait le taux naturel. Le taux naturel est estimé environ à 1,5%. On est à plus de 2% sur les taux directeurs. Donc, on a quand même des conditions qui sont encore fortement restrictives en zone euro, avec des impacts que l'on voit quand même sur la consommation, sur l'investissement, sur la croissance en général. Aujourd'hui, ce qui tire l'activité en zone euro, ce sont les dépenses publiques, l'investissement gouvernemental et puis la balance commerciale. La consommation, l'investissement privé sont en berne. En revanche, aux États-Unis, là on a un dynamisme beaucoup plus important de l'économie, de la consommation, de l'investissement. Donc c'est toujours le consommateur en dernier ressort que constituent les États-Unis. Et là, effectivement, ce que la Banque centrale tricote doucement, les marchés le défont. Mais c'est pour cette raison-là qu'effectivement, je pense que aux États-Unis, il y a peu de chances qu'on ait une baisse des taux d'intérêt. Hein. Et au contraire, je pense que le dynamisme de la croissance américaine font que l'année prochaine, on peut très bien avoir une situation de taux d'intérêt assez élevé encore aux États-Unis, avec une confirmation de l'objectif final au-dessus de 5%, et avec une finalement des marchés d'actions et une croissance qui est au rendez-vous. En zone euro, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes supports internes qu'aux États-Unis.
Et est-ce que le maître étalon, ça va donc être l'autre événement de la semaine prochaine, ça sera l'inflation américaine ? Quelles sont un peu vos anticipations, vous, en termes d'inflation ?
Alors, ce qui est intéressant sur l'inflation américaine et européenne, qui fait grosso modo la même chose avec quelques mois de retard, c'est que l'inflation commence à baisser doucement. La baisse pourrait s'accélérer. Parce qu'il y a des effets de base, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on pourrait avoir une baisse assez marquée sur...
On rappelle qu'une baisse de l'inflation, ça ne signifie pas une baisse des prix. Hein.
Non, ça veut dire que les prix montent moins vite. C'est ça.
C'est ça.
mais toute cette baisse, ou en tout cas une énorme partie de cette baisse, est liée au prix énergétique. C'est-à-dire que les prix énergétiques ont beaucoup monté, c'est une marche d'escalier. Petit à petit, comme vous comparez à l'année précédente, une fois que vous avez passé la marche, vous revenez à zéro. Par contre, les autres prix continuent d'être dynamiques. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente dans notre jargon, c'est-à-dire ex-énergie et alimentaire, ça continue à progresser.
Donc c'est vrai qu'il y a plein de boîtes, d'artisans, de PME qui ont des contrats annuels et qui là sont en train de recevoir la douloureuse pour.
Et donc ils vont être obligés de. Alors il y a deux solutions. Hein. Soit vous montez vos prix de vente, ça s'appelle de l'inflation. Soit vous montez pas et vos marges passent à zéro voire en négatif et vous mettez la clé sous la porte. Elles vont pas avoir le choix. Mais voyez, la morale de l'histoire, c'est que on peut avoir une inflation qui redescend très vite. Sur 5% pour donner un ordre de grandeur. Mais pour casser après le 5% et revenir vers du 2%, ça va être très très problématique. Donc ça peut donner un peu de baume au cœur aux banques centrales qui vont ralentir parce qu'elles vont voir l'inflation headline qui baisse. Mais on est très très loin, à mon avis, de reconverger vers le 2% qui est l'objectif. Et donc, ça implique des taux qui restent élevés longtemps.
Vous êtes sur le même type d'anticipation dans votre tableau de marche, votre scénario à la financière
Encore une fois, on établit une distinction assez nette entre l'Europe et les États-Unis. Donc, effectivement, on va avoir une baisse de l'inflation, mais la situation est complètement différente entre l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'inflation, grosso modo, c'est 50% l'offre, 50% la demande. En Europe, l'inflation, c'est essentiellement, très majoritairement, l'offre et donc la hausse du prix des matières premières, du gaz, du pétrole, etc., etc., qui se transmet dans l'économie. En revanche, en zone euro, le problème, c'est que la demande, elle reste à tonne. Je parle de la consommation et de l'investissement privé. Quand vous voyez l'évolution des salaires en Allemagne réelle après inflation, on est à moins 7%. On est à peu près à moins 5% en France. Donc, c'est le consommateur final qui, finalement, paye la douloureuse, si je puis dire. Et la politique monétaire, va également contribuer à ce que le poids de l'inflation soit reporté sur les populations. Donc ça, c'est quand même une divergence très nette entre la zone euro et les États-Unis.
Ça, j'ai envie de dire, ce scénario que vous nous proposez, c'est donc l'inflation qui reflue. Mmh. Ici, elle reflue pas ou moins vite qu'espéré.
Il y a un sujet en particulier, c'est les salaires. Alors si vous regardez, on a eu les salaires en France ce matin. On a une progression de 1% sur le trimestre. Les trois plus fortes progressions publiées, trimestrielles, c'est les trois derniers trimestres. Donc, si vous regardez le chart, on est tout plat, et puis d'un coup, pouf, ça accélère très très vite. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer en termes de pression salariale. Donc ça crée un effet d'inertie, un effet de mémoire sur l'inflation. Et effectivement, ça nous dit que pour revenir à 2%, ça va être assez compliqué. La conclusion, elle est toute simple. Je pense qu'il y a un risque que ce qu'on voit sur les banques centrales soit insuffisant et qu'elles aillent un petit peu plus loin.
Donc ça leur fait une deuxième raison de se préoccuper quand même.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Ouais. Est-ce qu'à la fin, on ne doit pas redouter une erreur de banque centrale ?
Moi, j'y crois pas trop. Moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, les banques centrales, elles vont s'accommoder d'un objectif d'inflation plus élevé.
D'accord. Il va falloir qu'elles disent c'est plus 2 ou c'est plus autour de 2, mais.
Bien sûr. Et regardez, il y a eu un article il y a quelques temps de Monsieur Blanchard, donc l'ancien économiste en chef du FMI, qui plaidait pour une réévaluation des objectifs d'inflation. C'est un discours qui, quand même, commence à tourner dans
les cercles. C'est quoi? C'est 3, 4 pour, supportable pour nos économies?
3 pour. Ça dépend de toute façon de combien le niveau d'inflation, ça dépend de l'ouverture d'une économie, ça dépend de sa population active, ça dépend de la part de répartie entre les jeunes et les vieux, ça dépend de plein de choses en fait. Il n'y a pas de niveau optimal d'inflation, mais en revanche, je serais très surpris qu'on revienne effectivement à un 2%. Et je pense qu'on s'accommodera dans quelques années d'un 3%. Ça sera la nouvelle normalité.
Il faut remonter cible.
Non, il ne faut pas remonter parce qu'on l'a déjà fait. Je rappelle que en 1990,
vous avez dit autour, c'est ça ?
Voilà, en 1999, Otmar Issing, qui était l'économiste de la BCE, a défini l'objectif de stabilité des prix comme une augmentation de moins de 2%. Donc on devait être entre 0 et 2. Là, on a changé, c'est autour de 2%.
Oui. Donc si on est à 2% 3, sur longue période, quoi.
Voilà, si on est à 3, il y a pas. Je rappelle quand même que l'inflation moyenne en Europe depuis le début de la BCE, c'est 2,1%. Donc, on y est. Il n'y a pas péril en la demeure.
Mais quand on est à 12 ou plus dans certains pays européens, on ne revient pas à 2. Hein.
Non, mais c'est ça le problème. C'est à quelle vitesse on revient à 2. Je pense qu'effectivement, une histoire où on est à 3, avec des prévisions de la BCE qui nous disent « mais vous êtes à 3, mais dans un an, on sera encore plus proche de 2 », il n'y a pas besoin de massacrer l'économie. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on revient bien à 3 ou 4 ou est-ce qu'on reste au-dessus de 5 ? Et là, c'est pas sûr du tout. Parce que si vous êtes toujours à 5, voire plus, en fin d'année prochaine, ce qui est un scénario plausible, hein, c'est pas notre scénario, mais c'est du domaine du plausible. Là, vous avez un problème. Parce que là, vous avez vos anticipations qui se décalent. Et là, vous avez un effet mémoire extrêmement fort qui s'installe. Et bon, ça, on l'a vu, hein, ça s'appelle du Volcker. Vous avez après 10 ans de politique monétaire extrêmement agressive pour regagner en crédibilité. C'est ça le gros risque.
Voilà donc pour ce dossier BCE Fed qui va nous occuper largement la semaine prochaine. Il y a une autre nouvelle qui a fait pas mal de bruit sur les marchés et qui a aussi un petit peu contribué à quelques mouvements. C'est la Chine qui a décidé de s'aborder sa politique Covid zéro a priori. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que du coup ça vous réjouit ou au contraire c'est pas un bon point ?
C'est plutôt un bon point, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments d'annonce quand même dans cette.
Ça va pas être vrai sur le terrain.
Je crois que ça va être très difficile quand même pour les Chinois. Vous savez que il y a une problématique sanitaire énorme en Chine. Donc le Covid n'est pas simplement réprimé. Il est simplement contenu. Les vaccins ont une efficacité tout à fait relative. Enfin, les deux vaccins utilisés par les autorités chinoises ont une efficacité relative. Vous avez un manque également d'infirmières qui est absolument crucial en Chine. Et il y a également l'expérience de la réouverture de Hong Kong il y a quelques mois. Ils ont essayé de rouvrir Hong Kong. Il y a une explosion des cas de Covid à Hong Kong. Et donc, bien évidemment, ils sont obligés de relâcher un peu la pression et les marchés en ont ça s'est reflété effectivement dans la valorisation des actions chinoises. Néanmoins, je pense qu'il y a ça sera très très compliqué, ça mettra beaucoup de temps. Et donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur la réouverture de la Chine, d'autant plus que les Chinois eux-mêmes comme nous l'avons fait au moment du Covid, ont des comportements de d'auto-confinement qui les poussent effectivement à restreindre leur contact et leur consommation.
Un regard sur cette Chine ?
C'est assez marrant pour moi. La Chine, je le vois un peu comme le débat sur l'inflation. C'est-à-dire que si vous regardez historiquement, il y a un optimum d'inflation autour de 2-3%. Quand vous êtes trop bas, vous êtes en déflation, c'est mal. Quand vous êtes trop haut, ça crée plein d'effets de... c'est mal aussi. Donc vous avez une espèce d'optimum. La Chine, c'est pareil. S'il se réouvre, c'est bien pour l'économie international, ça redynamise, ça permet de tous ces problèmes d'offres qu'on a, de fournisseurs disparaissent. S'y réouvre trop vite, trop fort, ça veut dire que les prix des matières premières vont rebondir, ça veut dire que vous avez une économie qui est très résiliente. Et là, le problème dont vous parliez tout à l'heure, d'inflation qui est persistante à un niveau élevé, devient important. Donc en fait, c'est...
On doit se réjouir s'il n'ouvre pas trop vite.
Je le vois comme ça, oui. C'est, vous savez, le dicton qui est le poison est dans la dose. Mais c'est ça, en fait. C'est s'il réouvre un petit peu progressivement. Et c'est d'accord avec ce que vous avez dit. Ça se fait pas de manière, ça se fait pas à la hussarde. C'est plutôt positif. Mais si on a un choc trop fort sur l'économie à l'heure actuelle, alors que l'inflation commence à peine à piquer du nez, ça peut en fait paradoxalement être totalement contre-productif parce que là on a une surchauffe de l'économie, on a une seconde vague d'inflation et ça peut devenir très vite très compliqué.
Malgré tout, on est en fin d'année, on s'est quand même dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire justement ? On investit comment ? Enfin, on investit comment et on investit où ?
À long terme, il faut rester investi, indéniablement. Le monde est en croissance et je dirais qu'il n'a pas terminé. Notre développement est durable, si je puis dire, pour utiliser la phraseologie actuelle. Donc, bien sûr, il faut rester investi. Ensuite, il faut savoir quel type de secteur. Moi, j'ai le sentiment que s'agissant des actions, on a encore une marge de manœuvre assez importante sur toutes les valeurs qui sont positionnées sur le secteur domestique de l'économie, à la fois, bien sûr, aux États-Unis où là, on a une dynamique très forte sur la consommation et sur l'investissement, mais également aux zones euro, où, en fait, les Américains sont de retour. C'est-à-dire que les Américains, depuis maintenant 2 ans, depuis la fin de l'année 2021, enfin, disons, étaient partis d'Europe. Là, on a un retour des capitaux qui va plutôt, d'ailleurs, sur les valeurs pétrolières, sur les valeurs industrielles classiques. Vous avez quand même des plans de relance également en zone euro qui vont bénéficier au secteur de la défense, de la technologie, à toutes les thématiques de souveraineté. Donc ça, c'est un élément plutôt favorable. Donc bien sûr, il faut rester investi, il faut rester prudent, mais il faut rester investi. Et pour notre part, on est plutôt à l'écart aujourd'hui, encore pour quelques mois, de tout le secteur technologie, de tout le secteur des GAFA, qui d'ailleurs a enregistré quand même des corrections significatives depuis plusieurs mois.
Comment on doit se positionner en cette fin d'année? Est-ce qu'il faut avoir le couteau entre les dents? Est-ce que faut être prudent? Il faut.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le moyen terme. Donc, au lieu de répéter avec des mots différents les mêmes choses, juste un petit bémol tactique pour le coup. Je vous l'ai dit, les primes de risque étaient très excessives. Il y a quelques mois, on les a normalisées. Le problème avec cet argument-là, c'est que maintenant, on ne price plus de récession. Donc, s'il y a un accident, on est très très mal protégé. Donc, le risque à la baisse est beaucoup. On est beaucoup moins protégé d'un risque à la baisse qu'on l'était il y a 1 ou 2 mois. L'autre point, c'est ce que je disais, c'est que les conditions financières se sont quand même beaucoup améliorées. Ça me fait beaucoup, beaucoup penser à ce qu'on a vu en juillet, où le marché s'est emballé un petit peu trop vite et où les banques centrales ont sifflé la fin de la récré. Donc, tactiquement, on est relativement prudent sur le passage de l'hiver.
D'accord.
Par contre, oui, à moyen terme, je suis tout à fait en ligne avec ce que vous avez dit. Ouais.
Avant de terminer, il nous reste une petite minute, donc ce sera forcément une réponse un peu rapide, mais on voit que les small caps sont très 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 en retard, enfin voire un peu décorrélés. Est-ce qu'il y a une explication, ou est-ce qu'au contraire c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder quand on est investisseur?
Oui, alors parfois il y a des choses qui sont faiblement chères pour des raisons objectives. Hein. Donc bon, écoutez, je pense qu'elles sont moins corrélées tout simplement parce qu'elles sont moins sensibles à l'évolution des conditions monétaires. Mais normalement, le cycle normal, c'est que si jamais vous avez une poursuite de la reprise des marchés, ça va entraîner nécessairement les small caps. Bon, tout de suite, il faut regarder quand même par valeur, par secteur. Donc répondre de façon générale sur le secteur, à mon avis, c'est lié essentiellement à l'évolution des conditions financières, à l'anticipation des politiques monétaires. Mais
une idée sur ces small caps?
La réaction que j'aurais à la question, c'est de dire qu'on a on appelle ça des valuation spread, donc des différences de valorisation entre actions qui est absolument colossale. Normalement, ça ne tient pas. On reconverge. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un secteur qui soit très cher très longtemps et un autre très cheap. Bon, donc ça plaide plutôt pour, à moyen terme, effectivement, une forme de rattrapage. Bon. Après, on peut rester pas cher pendant très longtemps, comme vous l'avez dit. Hein. Bon. Donc voilà.
Voilà quelques idées. Donc, Stéphane Déo, Ostrom AM, Emmanuel Salle pour Financière de la Cité. Merci d'avoir participé à Regards Croisés ce matin. Dans un instant, on va aller faire un détour sur le marché. C'est notre promesse à l'entame de chaque demi-heure. Ce marché qui se cherche un petit peu. Hein. On grignote. Waouh, 0,09%. C'est Stéphane Solitaire qu'on retrouve dans un instant. Et puis, n'oubliez pas les replays qui vous permettent de nous retrouver au moment où vous le souhaitez sur notre site ou sur vos plateformes préférées.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
11h30, l'heure de retrouver Stéphane Sauduteil qui nous attend chez Technibourse et qui suit pour nous la séance de cette fin de semaine où l'absence de tendance est quasi criante. Il suffit de regarder notre indice CAC qui reste collé sur son niveau d'équilibre, Stéphane.
Oui, c'est vrai. On avait un tout petit peu baissé en début de matinée et puis on a rebondi sur un support un peu providentiel vers 6625 points. Et là, on a repris un peu plus de 25 points, donc un peu moins de 0,5%. C'est vrai que c'est très calme. Je pense qu'on était vraiment dans une semaine de transition. Pas beaucoup de statistiques macroéconomiques. On attend quand même, si à 14h30, l'indice des prix à la production, qui pourrait peut-être agiter un petit peu les marchés. On voit que la baisse a été un petit peu plus sensible quand même sur les marchés américains ces derniers jours, puisque le Dow Jones et le Nasdaq 100 étaient sur un sentiment un petit peu d'optimisme un petit peu trop fort, avec 78% d'investisseurs haussiers. Ça s'est un petit peu dégonflé, on est quand même à 68%. Ça reste quand même fort, donc on n'a pas une totale sérénité par rapport à cette phase de consolidation. C'est bien difficile de dire si elle est terminée. Mais voilà, on essaye de remonter un petit peu avec un reflux des taux d'intérêt américains à 2 ans. On était à 4,37 il y a pas si longtemps, on est à 4,28, donc ça fait plaisir un petit peu au marché. Mais attention quand même à l'indice des prix à la production cet après-midi qui pourrait encore changer la donne, et surtout la semaine prochaine très chargée hein, en statistiques, avec bien sûr les banques centrales. Et puis l'inflation, bien sûr, aux États-Unis et en zone euro. Voilà.
Grosse semaine.
Je note cette semaine quand même le fort reflux des cours du pétrole. Donc moins 10%, hein, c'est quand même assez impressionnant. Ça n'a pas eu pour effet de faire beaucoup baisser l'indice des matières premières. Donc ça veut dire que les matières premières agricoles tiennent quand même la dragée haute. Hein. Elles ne veulent pas baisser. Alors je ne sais pas si c'est de bon augure pour l'inflation, qui devrait à mon sens rester quand même sur des niveaux élevés malgré ce reflux du pétrole depuis quelques semaines maintenant. Donc voilà, on est dans un marché vraiment très calme. Hein. C'était vraiment une semaine assez ennuyeuse quand même, avec des mouvements pas très nets. Ouais. Voilà, on est un petit peu faible quand même sous les 6680 points, et ça irait beaucoup mieux au-dessus des 6700 points.
Merci beaucoup Stéphane Sauduteil, donc depuis Technibourse, le marché qui reste attentiste, plus 0,09, 6653 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et c'est Mara Dobrescu que l'on retrouve depuis Morningstar en duplex avec nous. Bonjour Mara.
Bonjour Cédric.
On évoque avec vous les fonds globaux qui deviennent moins mondiaux, c'est ça ?
Oui, alors bon, c'est peut-être une façon un peu provocatrice d'en parler. En fait, ces fonds d'action internationale, ils ont clairement la cote auprès des investisseurs européens. À fin septembre, ils représentaient environ 34% du marché des fonds domiciliés en Europe. Mais l'exposition de ces fonds internationaux est peut-être pas aussi globale que les investisseurs pensent. En réalité, il faut savoir que ces fonds sont assez concentrés sur les États-Unis, et de plus en plus concentrés, puisque le poids des États-Unis dans les indices boursiers mondiaux a augmenté très rapidement au cours de la dernière décennie, plus 17 points de pourcentage de poids des États-Unis dans le MSCI World. Il atteint aujourd'hui près de 70% du MSCI World, et de même pour l'indice Morningstar global sur les 10 dernières années.
Comment l'expliquer ?
Alors, c'est clair que les États-Unis sont surreprésentés dans les indices boursiers par rapport à leur poids, disons, dans l'économie réelle, puisque ce poids dans l'indice MSCI World, donc près de 70%, il est plus de 4 fois supérieur au poids des États-Unis dans le produit intérieur brut mondial, une fois qu'on a ajusté en fonction de la parité des pouvoirs d'achat. Et cet écart entre le poids boursier et le poids dans le PIB mondial, eh bien, il a même tendance à se creuser, puisque depuis le début des années 2000, la part des États-Unis dans le PIB mondial est plutôt sur une tendance à la baisse. Donc, du coup, cette augmentation du poids des US dans les indices, ça reflète plutôt l'envolée des cours du marché américain par rapport aux autres marchés boursiers mondiaux, en partie par une logique sectorielle. Donc c'est un marché américain plus axé sur la technologie qui a surperformé. Il y a aussi la forte croissance des bénéfices outre-Atlantique, et puis aussi le raffermissement du dollar qui explique cette augmentation.
Est-ce que tout ça a des conséquences pour les investisseurs ?
Alors, c'est difficile de prédire si cette tendance à la concentration sur le marché US va se poursuivre sur le long terme. À court terme, il y a un peu un revirement, puisque le secteur de la technologie a énormément souffert cette année avec les hausses rapides de taux d'intérêt, les menaces de récession. Donc, on a eu des chutes de cours vertigineuses pour Meta, Amazon, Netflix, etc. Tout ça pourrait orienter à la baisse le poids des US dans les indices mondiaux à court terme. Mais la principale implication pour les investisseurs, c'est surtout si vous détenez déjà un fonds d'action international, vous avez peut-être déjà une très grosse exposition aux US. Donc attention, éventuellement, avant d'ajouter un fonds pur US à votre portefeuille, ça risquerait de dupliquer vos facteurs de risque.
Est-ce que vous avez quelques exemples, Mara, de fonds d'action internationale un petit peu mieux diversifiés géographiquement ?
Oui, on peut en citer 3. notées par les analystes et qui ont une exposition aux US un peu plus modérée, donc entre 51-55% des actifs actuellement contre, rappelons-le, autour de 70% dans l'indice MSCI World. Donc ces trois fonds, on peut citer notamment le Capital Group World GNY, noté Silver, c'est un fonds dont les gérants préfèrent les actions aux dividendes généreux, donc c'est des actions un peu moins représentées aux US, et c'est une approche qui a fait ses preuves sur longue période, même si la sous-exposition aux US a un petit peu coûté récemment. On peut aussi mentionner le Robeco QI Global Conservative Equities, il est aussi noté Silver, c'est un fonds avec une approche quantitative très discipliné. Et enfin, le MFS Global Concentrated Equity, une approche qui est là axée sur la qualité avec un faible taux de rotation du portefeuille. Les résultats de long terme sont également de très bonnes factures sur ce fonds MFS. Il est noté Gold par nos analystes.
Merci beaucoup, Mara, pour ce point très complet sur ces fonds globaux qui deviendraient donc moins mondiaux. Mara Dobrescu depuis Morningstar. Bonne fin de semaine sur le marché. Mara, le CAC qui continue à faire son petit bonhomme de chemin, plus 0,07, 6651 points. Il ne se passe rien à la Bourse de Paris.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
On répond à toutes vos questions avec nos deux experts de retour en plateau, François Monnier et Romain Burnand. Vous êtes prêts, messieurs ?
On est prêts.
On rigolait
Allons-y.
En se disant qu'il fallait réveiller le marché, qu'il nous faudrait sans doute un gros réveil. Ce sera probablement la semaine prochaine avec les banques centrales. On verra tout ça. François, pour la rédaction d'Investir, Romain pour Moneta AM. Question que vous envoie Julien. François, EuroAPI a beaucoup baissé cette semaine. Est-ce qu'il faut que Julien s'inquiète ?
Disons qu'il y a eu un événement assez significatif. Alors, il faut voir que, d'abord, EuroAPI, qu'est-ce que c'est ? C'est une ancienne division de Sanofi qui a fait ses premiers pas en bourse en mai dernier. Ça a été introduit à 12 euros. Ça a bondi de plus de 40%. Et cette semaine, on a eu un accident industriel et boursier qui a conduit à un recul de 16%. Et EuroAPI, c'est un des champions, un des leaders dans la fabrication de principes actifs pharmaceutiques qui rentrent qui sont destinés à la production de médicaments. Ils sont aperçus que sur un site à Budapest, le processus de production finalement ne correspondait pas aux exigences de l'entreprise. Et donc, ils ont fermé le site en attendant qu'il y ait une remise aux normes. Mais cet incident sur un site pose deux questions. D'abord, il y a un impact financier, ça veut dire que la société ne tiendra pas ses objectifs 2022 compte tenu de la fermeture de ce site, et c'est parce que cette fermeture va durer plusieurs semaines, et ils avaient prévu à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, une croissance de 12%, ils n'atteindront pas ces 1 milliard, ça sera probablement 980 millions, donc c'est pas significatif,
oui.
Mais il y a quand même aussi un impact sur la marge, et sur la marge, l'objectif là aussi sera pas atteint. Donc, impact financier. Et après, bien sûr, les investisseurs se posent tout de suite la question en disant, s'il y a un problème sur un site,
est-ce qu'il n'y a pas de problème sur les autres sites partout?
Donc, la bonne nouvelle quand même pour se rassurer, c'est de se dire que c'est un contrôle interne qui a découvert qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas. Il n'y a pas eu un incident,
il n'y a pas eu de
controverse, etc. Donc ça veut dire que l'audit interne, en tout cas le mode de fonctionnement de l'entreprise, est plutôt sérieux. Mais il s'avère que, et c'est l'expérience qu'on a pu avoir au cours de 2022, quand vous avez un titre qui est cher, qui se paye plus de 25 fois les bénéfices, ouais. Dès qu'il y a une déception, la sanction, elle est lourde. La sanction, c'est entre moins 15 à moins 40. Donc la réaction, elle est légitime, parce que le titre était très cher. Certes, il offrait beaucoup de visibilité, mais il était cher, et donc il a fallu marquer le coup, et surtout que les objectifs ne sont pas tenus. Mais là, je pense qu'on peut rester à la chasse sur ce titre-là. Ça ne remet pas du tout en cause les fondamentaux et la qualité intrinsèque de l'entreprise, mais c'est vrai que cet incident, ça a un prix. Et là, en tout cas, il l'a payé.
Romain, vous regardez EuroAPI ou...
Oui, on l'avait regardé, mais on l'avait trouvé beaucoup trop cher.
Ah.
Et effectivement, on n'aime pas les valeurs. Non, ça dépend. Mais on reconnaît que, effectivement, quand on a des valeurs chères qui ont un bon momentum, mais tout d'un coup, il y a une déception. Alors, les déceptions industrielles, c'est le pire dans ce métier, parce que c'est un métier de sous-traitant. Enfin, voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est que la production soit à la hauteur du donneur d'ordre. Ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est souvent des sujets qui sont longs à traiter. Et voilà, ça met pas en péril la société, bien sûr, mais peut-être on pourrait nous attendre un peu avant de se réintéresser au dossier.
Question de Raphaël. Le cours d'Eiffage est au plus haut de l'année. Est-ce le moment de prendre ses profits?
Alors, non.
Bon.
Je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi. Il est au plus haut de l'année. C'est vrai qu'il progresse de 6% depuis le début de l'année. Donc, c'est bien dans un marché qui baisse. C'est une valeur qui est discrète. Mais c'est pour nous une valeur qui a dont les résultats en 2022 vont être largement au-dessus des résultats de 2019. Et pourtant, le titre reste en dessous de son niveau atteint en 2019. Alors, et surtout, ce qui est intéressant sur ce titre-là, c'est que 2023 s'annonce bien. Il y a deux activités chez Eiffage. Il y a l'activité bien connue de construction, hein, et où le carnet de commandes est très élevé, où on attend donc le chiffre d'affaires 2023 est garanti. La marge n'est pas toujours garantie, mais elle est quand même bien engagée. Il y a toujours des phénomènes de hausse des prix qui peuvent peser de manière négative, mais il y a quand même un effet volume qui va peser de manière positive. Donc tout on sape pour une marge qui est stable, sur un chiffre d'affaires en augmentation. Et surtout, l'autre moteur, si vous voulez, des phages, ce sont les autoroutes, pour l'essentiel des autoroutes, des concessions autoroutières, où l'un des indicateurs sont verts. Il y a eu deux années difficiles pendant le Covid.
Oui. C'est notamment dans l'Est de la France, les Alpes, le ski.
Voilà, c'est reparti. Et l'année prochaine s'annonce bien. On ne sait pas ce que sera le trafic, mais en tout cas, on sait ce que seront les péages, et les péages vont augmenter d'un peu plus de 4%, ce qui sera toujours quelque chose de bien pour la marge des phages. Donc, on a un niveau de valorisation qui est faible, un price earning d'environ 10 fois, une société qui est prudemment gérée. Il n'y a pas d'excitation. Il y a une visibilité surtout qui nous paraît précieuse dans un environnement qui risque d'être un peu plus chahuté 2023 au niveau économique. Et ça nous paraît un investissement intéressant à conserver. Et donc je pense que Raphaël peut attendre de dépasser le niveau record de 2019 avant de se reposer la question.
Bon. Quelle vision sur ce parcours des phages? Est-ce qu'il justifierait...
Oui, nous, c'est carrément un achat fort chez Investir, pour plusieurs raisons. D'abord, le titre n'est pas très cher et moins bien valorisé que Vinci. Ça s'explique parce que Vinci a une meilleure communication. Mais Eiffage ne manque pas d'atouts. D'ailleurs, on l'a vu au troisième trimestre, hein, le carnet de commandes a progressé de 4%. C'est deux fois mieux que ce qu'a fait Vinci sur la même période. Et aujourd'hui, il bénéficie d'un carnet de commandes de 14 mois d'activité. Donc, ça veut dire que l'année 2023 se présente très, très bien. On a des péages qui sont indexés sur l'inflation. Donc là, on aura une hausse des rémunérations au cours de l'année 2023. Donc, on est plutôt rassuré par la qualité et la solidité de l'entreprise pour 2023.
Eh bien, voilà, Raphaël, quelques éléments. Question de Anne. Comment voyez-vous évoluer Trigano en 2023, François?
J'espère que ça va aller mieux, parce que Trigano nous a fait très, très peur. À un moment donné, ça perdait près de 50% au premier semestre. Le cours s'était effondré de moitié.
Il faut dire problème de châssis, de composants.
Voilà, là, il y a eu un beau rebond.
Combo, hein.
Exactement. Donc, on pense que ça devrait mieux se passer en l'année prochaine. Il faut voir que le chiffre d'affaires, il a quand même progressé de 8%. À périmètre constant, on est stable. Et il y a eu deux phénomènes. On a un phénomène où on a les camping-cars qui représentent à peu près plus de 70% de l'activité de la société qui sont en recul parce qu'ils ne trouvent pas de châssis. Notamment, ils s'étaient approvisionnés chez Fiat, mais Fiat gardait ses châssis pour pouvoir fabriquer ses véhicules. Et en revanche, les résidences mobiles, les accessoires, les caravanes sont en forte croissance. Et on pense que le sujet du camping-car va être résolu probablement dernière semaine de l'année 2022. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de janvier 2023, la société dit qu'il n'y aura plus de problème d'approvisionnement. Donc, ils vont pouvoir satisfaire les consommateurs. Et en attendant, on a vu qu'il y avait du vrai pricing power. Ils ont relevé les prix et ça marche plutôt bien. Sachant que maintenant, la clientèle s'est un petit peu élargie. Avant, le camping-car était plutôt destiné aux retraités. Maintenant, c'est ce qu'ils appellent les jeunes seniors actifs. Donc, ça élargit un petit peu la population. Donc, maintenant, ce qu'il faut après, c'est surveiller le prix du carburant en 2023 pour voir si les véhicules seront bien utilisés. Mais en tout cas, il y a la visibilité. Le titre est devenu pas cher. Hein, on est maintenant à moins de 8 fois les bénéfices. Donc, ça se regarde.
Il n'y a pas de problématique, entre guillemets, écologique, d'électrification. Finalement, mon camping-car, il a 2, 3 ans, 5 ans, il va encore tenir une dizaine d'années. Il faut peut-être que j'attende
avant
de le renouveler, j'ai une solution électrique.
Il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, on aura, je pense, à terme, des solutions 100% écologiques. Un, ça va prendre du temps. parce que on va d'abord peut-être se rendre compte avec les véhicules, les voitures, parce que on manque déjà d'électricité alors que tout le parc n'a pas basculé à l'électrique, donc ça pose quand même des véritables défis. Quand on voit le temps qu'il faut pour recréer une centrale électrique, voire une centrale nucléaire, c'est un temps qui est considérable. Donc c'est pas pour 2023 ou 2024. C'est le premier point. Le deuxième point, on voit qu'il y a des exigences politiques à l'intérieur des grandes villes. Mais quand vous avez un grand camping-car, ceux qui prennent du camping-car, c'est pas pour se balader sur les Champs-Élysées. Ils essaient plutôt d'aller trouver des endroits un peu plus verts, même si il y a des arbres sur les champs. Et puis on aura probablement dans un premier temps une dérogation, comme il y a prévu des dérogations pour, j'ai envie de dire, les véhicules automobiles haut de gamme. Donc vous allez, ceux qui ont des Ferrari et autres véhicules de ce genre, ils pourront encore avoir quelques petites dérogations pour pouvoir circuler. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de dérogation aussi pour des camping-cars. Donc, mais c'est un sujet, vous avez raison, mais ce n'est peut-être pas pour les 2 ans ou les 3 ans qui viennent.
Même intérêt ou pas pour Trigano, ou c'est trop cher?
Alors elle est pas chère, 8 fois le résultat, c'est une très belle valeur, elle s'est très bien développée depuis 20 ans, elle est numéro 1 en Europe, elle a largement...
Ça a longtemps été un chouchou de la bourse.
Voilà, largement devant ses concurrents. Ceci dit, elle est très cyclique. Et c'est vrai que 8 fois le résultat, c'est pas suffisant à mon avis pour suite au rebond, hein, très important qui a eu lieu. Et alors il y a une visibilité sur 2023 pour les raisons que cite François, c'est-à-dire que les carnets de commandes sont pleins, ils vont réussir à entrer en production. Ceci dit, la question qui peut se poser, c'est 2024-2025. Et là, les indicateurs avancés sont plutôt moins bien orientés sur le camping-car d'après nous. On voit dans les Google Trends une baisse régulière de l'intérêt pour ce qui est après une forte hausse hein, pendant le Covid. Et donc, voilà, il n'y a pas de risque à court terme puisque effectivement mais il y a une valorisation qui pour une cyclique nous paraît élevée. Donc on aurait peut-être mieux, mais apparemment avec des valeurs comme Stellantis, et je sais que François aussi aime bien Stellantis, où là, alors c'est pas un leader mondial, mais c'est quand même un grand acteur mondial, et là on a un price earning de 2,5. C'est une valeur qui est cash positive, comme Trigano. Mais voilà, c'est donc on sait que c'est un secteur cyclique et il faut le garder en tête.
Voilà, Anne, votre réponse. Question de Stanislas, faut-il vendre le titre Téléperformance après le rebond?
Alors notre opinion, non. On est plutôt à l'achat. On trouve que Téléperformance a été une valeur qui est une vraie star, une valeur qui allait beaucoup, beaucoup trop loin dans la valorisation. C'est une valeur qu'on avait dans nos fonds pendant longtemps, mais qu'on a lâché quand le titre est monté et au-delà de nos espérances. Il a continué à monter après qu'on l'ait vendu. 400 euros, c'était vraiment un prix... on parlait tout à l'heure des valeurs de la tech qui avaient beaucoup baissé. C'est une valeur qui est liée à la tech, même si c'est pas vraiment que de la tech. Et on trouvait que c'était intéressant de l'acheter à partir de cet été à environ 260. Il y avait déjà la controverse qui existe cet été, le titre baissé. Et on a commencé à acheter, alors un peu trop tôt, à 260, parce qu'on pensait que la controverse...
S'arrêterait.
Alors, pas s'arrêterait, mais qu'elle était prise en compte dans la valorisation du titre au niveau adéquat. La controverse s'est accélérée tout d'un coup vers le 11 novembre par un tweet. Il y a eu un peu un effet d'effarement, d'une réaction aussi importante, moins 30% en un jour. Des investisseurs se sont sentis obligés de vendre toute leur ligne de manière très rapide. Ça faisait peut-être...
Un petit impact ESG quand même.
Un impact ESG important, mais un impact qui était déjà connu, si vous voulez. Il y avait déjà eu des rapports dont on a eu connaissance, hein, qui montraient qu'il y avait des choses à améliorer dans la gestion, notamment des syndicaux au sein du groupe. Hein. C'est un groupe de 400 000 personnes, donc c'est pas anormal que parfois il puisse y avoir des choses à droite ou à gauche. Mais la réaction boursière était exagérée, peut-être influencée par l'expérience d'Orpea. Hein, où il y a eu une vraie controverse aussi, dans un environnement d'une société qui était très endettée, un environnement plus complexe que l'environnement de Téléperformance. Et pour nous, effectivement, ça a plutôt constitué l'occasion de nous renforcer sur le jour même. C'est une société qui est solide financièrement, elle a une forte croissance qui nous paraît bien assurée. Et c'est une valeur de qualité qui est mal valorisée par rapport aux valeurs de ses peers, pour les raisons de cette controverse, auxquelles la société a très bien répondu. Non. On a rarement vu une société se mobiliser autant. On a eu 4 conférences call jour après jour, publication de rapports, publication de rapports internes, publication de rapports par Bureau Veritas, visite de sites organisées en Colombie dans la foulée de controverses, 15 visites de sites qui vont être organisées en janvier dans tous les pays du monde où ils ont des centres importants. Enfin, la société a eu une réaction incroyable. Bon. Et nous pensons que ces pratiques vont être améliorées et ne sont pas totalement condamnables.
Bon, on en a déjà pas mal parlé, mais effectivement, c'est convaincu.
Oui, bah on pense comme Romain. Donc nous, on reste à l'achat de Téléperformance, hein, même si c'est plus un achat fort parce qu'il y a cette problématique et on va voir comment vont se comporter les investisseurs dits ESG, hein, parce qu'on sait que ça représente à peu près 20% du flottant. Il y en a qui voulaient vendre. Donc est-ce que maintenant, ce sont parce que les analystes et les investisseurs fondamentaux qui regardent les réactions sont plutôt convaincus. Mais après, voilà, il y a parfois la gestion ESG, c'est une gestion extrêmement binaire, c'est oui ou non.
Oui, c'est ça.
Donc, on va voir comment ça se comporte. Mais en tout cas, le rebond, il a été quand même assez significatif.
Voilà, Stanislas, quelques éléments à avoir en tête autour de ce dossier Téléperformance. Question d'Aurélien, actionnaire depuis nombreuses années de Nestlé. Je me demande si je dois la garder dans mon portefeuille, François.
La réponse est oui. Nestlé, c'est une vraie valeur sûre, c'est une vraie valeur de fonds de portefeuille. Ils l'ont encore prouvé cette année, même si on sait que ces acteurs subissent une vraie inflation, mais ils arrivent à passer des hausses de prix. Et résultat, on a eu sur Nestlé au cours de l'exercice 2022 3 relèvements à la hausse des prévisions d'amélioration de chiffre d'affaires. Et donc, ils devraient terminer l'année sur une croissance de l'ordre de 8 à 8,5, alors qu'ils avaient prévu en début d'année 5%. En fait, Nestlé s'engage quasiment auprès de leurs actionnaires pour dire, voilà, nous, chaque année, on est capable de vous proposer 5% de croissance. Donc là, il y a un surplus de croissance, mais ce surplus de croissance, on ne le verra pas sur la marge. Au contraire, la marge va quand même rester sous pression parce qu'ils n'ont pas pu passer l'intégralité de leur hausse de prix. Mais l'impact sur la marge, c'est assez modeste, hein, parce que Nestlé, c'est un acteur qui sait très, très bien piloter ses coûts. On est sur des marges qui sont exceptionnelles. En 2021, Nestlé avait été capable de dégager une marge de 17,4%. Là, ils vont peut-être faire 17%. Donc, vous voyez, c'est l'épaisseur du trait. On est à milieu de la rentabilité d'un champion français qui s'appelle Danone, qui, lui, a du mal à avoir une marge à deux chiffres. Donc, Nestlé a les moyens, en tout cas, dans les années qui viennent, à retrouver des niveaux de marge qu'ils avaient eu en 2021, voire les dépasser, puisqu'ils estiment qu'ils peuvent peut-être prétendre à 18,5%. Donc on a une croissance extrêmement rentable, beaucoup de leviers de relais, notamment dans le café, et donc on peut rester extrêmement confiant sur ce titre-là.
Vous avez un regard, vous, sur ce dossier Nestlé? C'est vrai que c'est quand même assez... Les chiffres que nous donne François sont assez bluffants.
Oui, c'est une société qui est une société effectivement très défensive. C'est une société qui n'est pas survalorisée. Elle a effectivement par rapport à sa qualité. Et c'est le genre de société effectivement qu'on peut vraiment avoir en fonds de portefeuille. On ne fera pas fortune à court terme, mais alors on a peu fait fortune à 30 ans. En tout cas, ceux qui avaient du décès il y a 30 ans ont fait une très bonne performance. À partir de là, on ne fera pas fortune, mais on ne fera pas d'erreur. Et je pense que c'est important dans un portefeuille d'avoir effectivement des valeurs qui sont stables. Et ça permet de prendre des risques par ailleurs et essayer de faire un peu plus de performance.
Romain Burnand pour Moneta Asset Management et François Monnier pour la rédaction d'Investir répondaient à toutes vos questions. Merci beaucoup. Messieurs, n'hésitez pas à nous écrire. Notre mail vous attend, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et chaque jour, nos experts répondent à toutes vos questions. Et puis, il y a également les replays qui vous attendent sur les sites et qui vous permettent de nous retrouver à tout moment sur le site ou sur vos plateformes préférées d'ailleurs. Dans un instant, c'est 60 minutes business et on retrouve donc Sandra Gandoin.
Bonjour Cédric.
Qu'est-ce que vous nous réservez pour cette fin de semaine?
On va parler de la famille Arnaud, évidemment. Antoine qui a été nommé directeur général de la holding, Christian Dior SEE. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui se met en place? On va en parler avec Hélène Cornet et avec Arnaud Cadart. Et puis ce déplacement aussi de Luc Raymond et de Bruno Le Maire à Penly sur le site nucléaire, un site qui illustre parfaitement le défi de notre industrie nucléaire. nucléaire. On va parler des enjeux tout à l'heure avec Dominique Marie. Et puis, on parlera d'une chaîne de restauration qui a choisi d'être sans plastique, bio, végétal, fait maison, local, sans additifs. C'est Emma Savko, la fondatrice de Wild and the Moon, qui sera notre invitée aux alentours de 12h15, Cédric.
C'est donc à suivre dans un instant, 60 minutes business avec Sandra Gandoin. Le marché parisien, lui, se montre toujours très hésitant pour terminer cette semaine, même s'il a pour le moment opté pour une légère hausse de 0,13%. Et il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. Lundi, c'est Stéphane Pedrazzi que vous retrouverez. J'aurai le plaisir de vous retrouver mardi matin. Très bon week-end.